Chapitre 56. Mélanie. Une fois le jour venu, j'avais peine à croire que Nina m'avait contactée. J'éprouvais d'abord une certaine anxiété à l'idée d'avoir été découverte, de me retrouver vulnérable. Mais cette réaction initiale s'estompa bientôt pour être remplacée par une résolution nouvelle et un regain d'énergie. Cette fille, quelle que soit la personne qu'elle représentait, m'avait encouragée à penser de nouveau à l'avenir. Ce jour-là, je pense que c'était le mercredi 6 mai. La négresse ne revint pas. Aussi passais-je à mon tour à l'action. Le docteur Hartmann fit le tour des hôpitaux, prétendant être en quête d'un poste, mais recherchant en fait les patients atteints d'une longue maladie et dont l'état de santé serait susceptible de correspondre à celui de Nina. Ayant à l'esprit mon propre séjour à l'hôpital de Philadelphie, il se garda bien de consulter le personnel médical ou administratif, mais accéda aux fichiers informatiques des divers établissements et, sous couvert de vouloir se faire une idée de leur potentiel, examina les ordonnances, les dossiers médicaux et le registre des équipements. Ces recherches se prolongèrent jusqu'au vendredi et je ne reçus ni visite de la négresse ni message de Nina. Le week-end venu, le docteur Hartmann avait inspecté tous les hôpitaux, toutes les maisons de repos et tous les centres médicaux qui m'intéressaient. Il était également allé faire un tour à la morgue du comté, celle-ci affirmant que le corps de Mrs. Drayton avait été confié aux bons soins de ses héritiers qui avaient procédé à son incinération, mais cela ne fit que confirmer la possibilité de sa survie ou de la mise au secret de son cadavre. Car en me glissant subrepticement dans l'esprit de chacun des employés, j'en trouvais un quinquagénaire légèrement stupide répondant au nom de Tob, qui portait l'empreinte mentale caractéristique d'un sujet utilisé à qui on avait ordonné d'oublier son épreuve. Cette même semaine, Kelley commença à visiter les cimetières de Charleston, cherchant une tombe vieille de moins d'un an susceptible d'abriter le corps de Nina. Comme sa famille était originaire de Boston, j'envoyais Miss Sewell dans le nord lorsque ses recherches s'avérèrent infructueuses. Je ne souhaitais pas me passer de la présence de Kelley. Et elle trouva le caveau de famille des Hawkins dans un petit cimetière privé situé au nord de la ville. Elle pénétra dans la crypte dans la nuit du vendredi, bien après minuit, et la fouilla de fond en comble, armée d'une pioche et d'un démonte-pneu, acheté dans un Kmart de Cambridge. Il s'y trouvait en tout 11 Hawkins, dont 9 adultes, mais tous semblaient reposer ici depuis au moins un demi-siècle. En contemplant par les yeux de Miss Sewell le crâne défoncé d'un homme qui ne pouvait être que le père de Nina, la dent en or qui nous faisait tant rire était nettement visible. Je me demandais pour la énième fois si ce n'était pas elle qui l'avait poussé sous les roues d'un tramway en 1921, vexée qu'il lui ait interdit de s'acheter le coupé bleu qu'elle désirait tant cet été-là. Les Hawkins qui peuplaient la crypte n'étaient faits que d'eau, de poussière et de tenues d'apparat depuis longtemps pourries, mais par acquis de conscience, j'ordonnais à Miss Sewell de fracasser chaque crâne et de regarder à l'intérieur. Nous ne trouvâmes que poussière grise et nid d'insectes. Ce n'était pas là que se cachait Nina. En dépit du caractère décevant de ses recherches, je me félicitais de penser aussi clairement. Mes mois de convalescence m'avaient quelque peu plongé dans la confusion, avaient émoussé mes perceptions d'ordinaire aiguë, mais je sentais à présent revenir mon ancienne rigueur intellectuelle. J'aurais dû deviner que Nina ne souhaitait pas être inhumée avec sa famille. Elle haïssait ses parents et méprisait son unique sœur, qui était morte très jeune. Non, si Nina était bel et bien un cadavre, j'imaginais que je la trouverais dans une belle demeure récemment acquise, peut-être ici même à Charleston, vêtue de belles robes et maquillée tous les jours, gisant dans une bière luxueuse et entourée d'une véritable nécropole de domestiques des morts. J'ordonnais à l'infirmière Oldsmith de revêtir ses plus beaux atours et d'aller déjeuner à la salle de la plantation, le restaurant de Mansard House, mais je n'y perçus aucun signe de la présence de Nina, et bien que son sens de l'ironie soit aussi aigu que le mien, elle n'aurait pas été stupide au point de revenir en ce lieu. N'allez pas croire que j'ai consacré toute une semaine à chercher en vain une Nina, qui n'existait peut-être pas. J'ai également pris des précautions pratiques. Le mercredi, Howard s'est envolé pour la France et a commencé à préparer mon futur séjour dans ce pays. La ferme n'avait pas changé depuis 18 ans. Mon coffre-fort de la banque de Toulon contenait toujours mon passeport français, renouvelé à peine 3 ans auparavant par les bons soins de Mr. Thorne. Je constatais les incommensurables progrès de mon talent lorsque je perçus sans difficulté les impressions reçues par Howard alors qu'il se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de moi. Jadis, seuls des pions parfaitement conditionnés comme Mr. Thorne pouvaient voyager ainsi loin de moi, n'agissant que d'une façon programmée à l'avance qui me privait de tout contrôle direct. En contemplant par les yeux de Howard les collines boisées de la Côte d'Azur, les vergers et les rectangles oranges des toits du village niché dans la vallée, je me demandais pourquoi il me semblait si difficile de fuir l'Amérique. Howard revint le samedi soir. Toutes les dispositions avaient été prises pour que Howard, Nancy, Justin et la mère invalide de Nancy puissent quitter le pays en moins d'une heure. Kelley et les autres nous suivraient un peu plus tard, à moins qu'une action d'arrière-garde ne s'avère nécessaire. Je n'avais aucune intention de perdre mon équipe médicale personnelle, mais même si j'y étais obligée, on trouve en France d'excellents médecins et d'excellentes infirmières. À présent que j'avais préparé une éventuelle retraite, je n'étais plus aussi sûre de vouloir fuir. L'éventualité d'une ultime réunion avec Nina et Willy n'avait rien de déplaisant. La longue période d'errance, de douleur et de solitude que j'avais vécue m'avait d'autant plus troublée que j'avais l'impression de ne pas avoir réglé toutes mes affaires. J'avais été prise de panique lorsque Nina m'avait téléphoné à l'aéroport d'Atlanta 6 mois plus tôt. Mais l'arrivée d'une représentante de Nina, si c'en était bien une, était beaucoup moins troublante. D'une façon ou d'une autre, pensais-je, je finirais bien par connaître la vérité. Le jeudi, l'infirmière Oldsmith se rendit à la bibliothèque et fit des recherches sur les noms mentionnés par la négresse. Elle trouva plusieurs articles de journaux et un livre récent consacré à C. Arnold Barrent, un milliardaire qui fuyait la publicité, vit que le nom de James Sutter était mentionné dans plusieurs articles consacrés aux prédicateurs des ondes, que plusieurs volumes traitaient de la vie d'un astronome nommé Kepler, qui ne nous intéressait guère vu qu'il était mort depuis plusieurs siècles, mais ne trouva aucune trace des autres noms cités par la messagère. Ces livres et ces articles échouèrent à me convaincre. Si la fille n'était pas envoyée par Nina, elle mentait presque certainement. Et si elle était envoyée par Nina, il était également possible qu'elle mente. Nina n'aurait pas eu besoin d'évoquer une conspiration de personnes douées du talent pour se tourner vers moi. Était-il possible que la mort ait plongé Nina dans la folie ? Me demandai-je. Le samedi, je réglais un dernier détail. Le docteur Hartmann avait déjà rencontré Mrs. Hodge et son gendre pour leur proposer d'acheter la maison de l'autre côté de la cour. Je savais où elle habitait. Je savais aussi qu'elle se rendait tous les samedis au marché de la vieille ville afin d'y acheter les légumes frais qu'elle aimait tant consommer. Je savais également qu'elle s'y rendait toute seule. Kelley se gara près de la voiture de la fille de Mrs. Hodge et attendit que la vieille dame sorte du marché. Lorsqu'elle se dirigea vers lui, les bras chargés de légumes, il s'approcha d'elle et lui dit « Attendez, je vais vous aider. » « Oh non, ce n'est... » Kelley s'empara d'une poche, agrippa Mrs. Hodge par le bras gauche et la conduisit vers la Cadillac du docteur Hartmann, la propulsant sur le siège avant comme un adulte l'aurait fait d'un enfant capricieux. Elle s'escrimait sur la portière verrouillée pour sortir de la voiture lorsque Kelley s'assit au volant, tendit une main aussi large que la tête de cette vieille femme stupide et lui serra le cou. Elle s'effondra contre la portière. Kelley s'assura qu'elle respirait encore, puis rentra à la maison, écoutant du Mozart sur la chaîne stéréo de la voiture, tout en essayant stupidement de fredonner à l'unisson. Le dimanche 10 mai, la messagère noire de Nina se présenta au portail peu de temps avant midi. J'envoyai Howard et Kelley à sa rencontre. Cette fois, j'étais prête à la recevoir.